France Musique. Les grands entretiens, Priscille Lafitte, France Musique.
Je suis Christoph Eschenbach. Je suis né le 20 février 1940 à Breslau. Je suis chef d'orchestre et quelquefois aussi pianiste. Ça, c'est ma vie.
Ces années à diriger ces orchestres, que ce soit à Hambourg, à Philadelphie, à Paris, vous pensez avoir évolué, vous, dans votre analyse des œuvres, dans votre gestique, dans vos couleurs? Comment est-ce que vous regardez le Christoph Eschenbach qui a commencé?
Faisons inversion la question. Je vais vous donner une réponse inversée. Ne serait-ce pas énormément triste si dans tous ces détails que vous avez nommés, je n'avais pas développé. Et je suis en train, chaque jour que le soleil se lève ou la pluie tombe, je veux aller plus loin avec tout ce que j'ai fait et avec tout ce que je pense et avec tout ce que je sens. On peut trouver un million de couleurs dans chaque œuvre. On peut faire des tempi très variés pendant sa vie. Quand j'étais jeune, je prenais les symphonies de Beethoven très lentement, parce que j'avais ça dans mon oreille de Furtwängler. Puis à Philadelphie, j'ai fait un cycle Beethoven avec des tempos assez rapides. Et pas comme une bonne volonté ou un changement de style pour essayer quelque chose. Non, avec le rassurement que j'avais avec cette musique. Et je dis toujours que, par exemple, les symphonies de Beethoven, les 9 symphonies de Beethoven, ils m'accompagnent toute ma vie et ils devraient accompagner tout chef d'orchestre. Ils sont un sismographe de la vie personnelle et du travail de l'esprit qu'on fait toujours.
Vous les avez joués aussi avec l'Orchestre de Paris au même moment?
Presque au même moment, oui.
Ça va être très intéressant de jouer les mêmes œuvres avec des orchestres différents.
Il y a... C'est moins intéressant que d'écouter les mêmes œuvres avec des chefs différents. Parce que moi, quand je sens, je rêve, je pense à une symphonie de Beethoven, ça va être sonné un peu similaire ici ou à New York. Parce que j'ai naturellement une opinion très marquée de ma version de comment je fais la symphonie, que ça va sonner naturellement un peu différent comme sonorité de l'orchestre, mais le style et l'interprétation seraient marqués de moi-même. Le style et la sonorité finale et l'interprétation finale doit être totalement fixe dans la tête du chef. Mais aussi assez libre que une personne qui joue la flûte solo a en jouant une idée qui passe bien avec mon idée. La musique est libre, la musique n'est pas un logarithme.
quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous assumez dans votre parcours, dans vos enregistrements par exemple, lesquels vous aimez?
D'abord, je n'aime pas beaucoup regarder en arrière. Je suis trop focusé à l'avenir et à des projets. Et ça, c'est une question difficile pour moi avec, au point de vue enregistrement. Parce que on fait les sonates de Mozart, par exemple.
Que vous enregistrez au tout début de votre carrière.
Oui.
Hein, pour Deutsche Grammophon.
Yeah. Et je ne peux pas les écouter. Impossible.
Pourquoi ?
Je ne le trouve pas bien. Je ne le trouve pas bien.
Vous les joueriez très différemment aujourd'hui ?
Oui. Il y a 2 ans, 3 ans, je voulais recommencer de les enregistrer, mais je ne le fais pas. Et il y a des concertos de Mozart avec London Philharmonic qui sont bons, je trouve. Et quelques anciens enregistrements des dernières sonates Beethoven qui sont bons, je pense.
J'aimerais savoir, Christoph Eschenbach, pourquoi vous n'avez pas pris le virage du renouveau du baroque? Qu'est-ce que vous pensiez de Harnoncourt à l'époque?
Harnoncourt, j'ai parlé avec lui d'ailleurs sur ça, et il a absolument raison dans son livre Klangrede. Seulement, et je lui dis, vous avez absolument raison, sauf 10 ans avant, Georges Sell disait la même chose. On n'a pas parlé de Handel au Bach ou les baroquistes. On a parlé de Mozart, beaucoup de Haydn, de Beethoven. Et là, il disait la même chose, que une sonate doit avoir une narration.
Est-ce que c'est pour cette raison que vous enregistreriez, par exemple, Mozart différemment aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de dépoussiérer ce que vous
avez fait quand vous étiez plus jeune? Pour cette raison, et pour cette raison que je n'aime pas, mais une autre histoire de Sell. Quand j'ai rencontré Sell, je vous ai dit, après qu'il m'a écouté, je l'ai rencontré de l'hôtel, et il me dit, sur l'escalier, là, dans l'hôtel à Salzburg, il me disait, j'ai écouté votre premier disque de Mozart. Thank you very much. Il a dit, il n'y a pas de raison que vous dites « thank you ». C'est terrible, votre Mozart. Il n'a pas de diction dedans. Il est lourd. Et il n'est pas assez phrasé. Tout ça, c'est pas bien. Alors, notre collaboration commençait comme ça. Mais il avait raison. Et c'est pourquoi je n'aime pas mon Mozart de ce temps-là.
Ça fait partie des évolutions. On parlait d'évolution de ses goûts musicaux.
Oui, mais.
Et de sa perception musicale.
Mais si on est ouvert pour la musique, ça veut dire aussi très réveiller ce que se passe dans la musique autour de nous. Et dans la musique, la même. Si on est toujours comme ça, avec les yeux ou les oreilles, mais surtout avec l'âme ouverte, tout est bien.
Thank you. Christoph Eschenbach, il y a quelque chose fondamental, un aspect fondamental de votre rapport à la musique, c'est la musique de chambre. Vous nous parliez dans votre enfance de la musique de chambre que vous avez faite et apprise auprès de vos parents, en tant que violoniste, en tant qu'altiste. Vous avez aimé, avec les différents orchestres que vous avez dirigés, faire de la musique de chambre ?
Pas seulement moi, j'aime faire ça, mais aussi j'essaie d'établir ce moment dans la tête des musiciens, le moment de faire musique de chambre, parce que ça est au son général. Et quand j'ai parlé de zèle et la transparence, de la lucidité qu'il a achevé, c'est pourquoi dans l'orchestre de Cleveland étaient beaucoup de musiciens qui faisaient des musiques de chambre, et lui aussi au piano a joué des quatuors de Mozart. Il y a même un disque de ça qui est merveilleusement bien. Mais fait beaucoup de récitals avec Fischer-Dies quand à ce temps-là. Nous avons enregistré tout Schumann avec lui. Et j'ai fait beaucoup de... aussi enregistrement mes concerts avec Matthias Görne.
Et vous avez fait les trois cycles Schubert avec Matthias Görne.
Yeah. Oui, oui, oui. Hein,
Die schöne Müllerin, yeah. Winterreise et Schwanengesang.
Yeah.
Est-ce que c'est l'endroit où vous êtes le plus heureux, la musique de chambre ?
Oui.
Immer Tränen klagen und Schmerz. Rastlose Sehnen, wünschendes Herz, immer Tränen klagen und Schmerz. Auch ich bin mir schwellender Triebe bewusst, wer stillet mir endlich die drängende Lust? Nur du befreist den Lenz in der Brust, nur du befreist den Lenz in der Brust.
Les grands entretiens de Christoph Eschenbach, France Musique.
Est-ce que les moments où vous avez dirigé l'orchestre en tant que pianiste, parce que vous avez fait ça aussi, vous avez été pianiste et chef d'orchestre
dans
certaines œuvres, en particulier de Mozart.
Mozart et quelques Beethoven, les deux premiers pièces.
Ouais. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier ? Est-ce que là, il y a vos différentes facettes de personnalité qui se rassemblent ?
Non, c'est seulement l'aspect musique de chambre. Parce que
c'est une grande musique de chambre,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et l'orchestre le sent. Il est autour du piano et tout cet orchestre pense musicalement musique de chambre. Alors les oreilles sont grands de côté de la tête, un mètre de oreilles.
C'est cette écoute-là que vous souhaitez aussi quand vous,
oui, c'est
quand
ça.
Vous dirigez.
C'est ça.
Springen von wildem Schmerz und Rang. Es treibt mich ein dunkles Sehnen hinauf zur Walze. Dort löst sich auf in Tränen mein
Quel est votre rapport à la voix, Christoph Eschenbach ? Votre mère chantait, vous a inculqué l'amour du répertoire du lied. Vous avez accompagné magnifiquement Dietrich Fischer-Dieskau dans cette intégrale de Schumann. Vous êtes un des partenaires privilégiés de Matthias Görne dans ses superbes cycle Schubert. Qu'est-ce qui vous rapproche tant de la voix ? Est-ce que vous chantez ?
Non. Ça serait terrible, je m'en...
Mais vous respirez avec le chanteur.
Ça, oui. Ça, j'ai appris dans les leçons de ma deuxième mère, quand elle montrait sa comment c'est fait juste pour les chanteurs.
Quand elle enseignait le chant. C'est cette même respiration avec laquelle vous respirez pour diriger, par exemple, un orchestre?
Oui, vous avez raison. J'ai appris beaucoup de ça pour respirer avec les musiciens, avec beaucoup de musiciens, dont chacun, chacune a une autre façon de respirer. Mais la respiration générale qui prescrit des phrases dans l'œuvre, dans les symphonies ou dans la littérature, il faut respirer pour tout le monde qui joue.
Vous notez ces respirations sur votre partition?
Non, je notais le phrasé.
Christophe Eschenbach, vous aimez bien diriger avec vos yeux.
Ah oui?
J'ai même vu un boléro de Ravel.
Ah oui, ça,
vous dirigez 8 minutes avec vos yeux.
Yeah.
Là, vous faites confiance à l'orchestre.
Totalement.
C'est,
si je ne veux pas faire confiance à un orchestre, je ne voudrais pas le diriger. Peut-être j'ai dirigé quelques orchestres où c'est manqué, mais maintenant plus.
Mais c'est aussi l'écoute mutuelle, par exemple.
Absolument.
Dans ce cas en particulier.
Absolument. Absolument.
C'est vos yeux, mais aussi votre respiration dans ces moments-là.
Oui.
Vous faites les entrées avec un coup de regard et avec une respiration.
Oui. Parce que la respiration et le regard sont avant le son. Et puis le son vient.
Vous allez fêter vos 80 ans le 20 février prochain, le 20 février 2020, et vous vous rassemblez à Berlin, vous invitez tous ceux qui ont compté dans votre carrière, que ce soit Simone Barthaud, dont on n'a pas encore pu parler, que ce soit Ling Ling, l'Orchestre de Paris, qui a marqué énormément vos années de direction. C'est la meilleure façon de faire de la musique, c'est de rassembler ses amis.
Oui, absolument. Je me sens bien avec la santé et je me réjouis beaucoup de ça. Et the English say I'm looking forward.
Les quelques instants juste avant le concert, à quoi vous les occupez?
Quand j'entre la scène, ça doit être tout à fait là. Toute la symphonie de Beethoven qui est une heure et la neuvième, une heure et 10 minutes, ou une Mahler ou Bruckner, mais aussi un Mozart ou un Haydn. Ça doit être parfaitement répété. Et puis, si on entre la scène, il y a une autre chose, que c'est la tension pour faire quelque chose d'absolument nécessaire dans la vie. Dans la vie des publics, dans la vie des musiciens, dans la vie de moi. Parce qu'après 2 heures, c'est fini. Et si on n'a pas donné tout, oh, malheur. Cette tension et cette habileté, cette présence doit être 100% là pour chaque concert.
Est-ce que vous diriez que c'est la même nécessité qui vous a habité depuis votre enfance où vous avez découvert la musique? C'était devenu une nécessité pour vivre?
Absolument, absolument. Et ça, je veux donner le soir, dans ces 2 heures. Je veux absolument que ça soit là.
Du bist die Ruhe, littéralement tuer le repos. Lied de Franz Schubert dans la voix de René Fleming avec Christophe Eschenbach au piano. Équipe de réalisation Thomas Robin, Marie Grouet, Claude Nior, attaché de production Flora Sternadel. Vous pouvez réécouter ces grands entretiens sur francemusique.fr, bien évidemment. À bientôt.
À réécouter sur francemusique.fr.